grand bien vous fasse, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 10h. Bonjour à tous, bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse. Et ce matin, je vous propose de prendre un peu de hauteur avec notre vie quotidienne pour atteindre le ciel des idées. Nous mettons quelques philosophies au banc d'essai de la vie quotidienne, avec notamment cette question vieille comme la philosophie. À quoi sert-elle vraiment? À mieux vivre, à mieux penser, à critiquer notre monde et ses fausses évidences? La philosophie doit-elle forcément servir à quelque chose? Les idées philosophiques doivent-elles s'appliquer à la vie de tous les jours? Nous verrons ce que valent les idées de Socrate, Spinoza, Kant, Descartes ou encore Derrida. Avec nous ce matin, le fondateur et directeur du magazine Sciences Humaines et les professeurs de philosophie, Laurence de Villers et Thibaut de Saint-Maurice. Bonjour Guillemette Audicino.
Bonjour Ali.
On retrouve votre esprit d'escalier tout au long de l'émission. Je ne sais pas pourquoi, mais je vous sens très nietzschéenne dans votre manière de dire un grand oui à la vie.
Oh, écoutez,
ça vous caractérise, hein?
Oui, oui. Puis alors, on est complètement. Je ne sais plus quoi répondre, mais j'aime bien aussi déconstruire comme Derrida, pour tout vous dire.
À tout à l'heure, Guillemette Audicino. Bonjour, Éric Libio.
Bonjour, Ali.
Rédacteur en chef culture à l'Express. Alors, vous, je vous sens plutôt adepte de la philosophie de Droupy. Quoi de neuf dans votre éternel retour tout à l'heure? Éternel retour très nietzschéen, pour le coup.
Ben oui, c'est l'éternel retour d'une disparition, celle du 29 février.
À tout à l'heure, Éric Libio. Bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne, mode d'emploi.
France Inter. Grand Bien Vous Fasse. Ali Rebbi.
Et ce matin, nous mettons quelques philosophes et philosophies au banc d'essai avec nos deux invités, nos trois invités plutôt, Jean-François Dortier. Vous êtes le fondateur et le directeur de la revue Sciences Humaines, plus que jamais indispensable en ce moment. Et vous publiez de Socrate à Foucault, les philosophes au banc d'essai aux éditions Sciences Humaines. Thibaut de Saint-Maurice, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de philosophie dans un lycée de la région parisienne. Laurence de Villers, vous êtes professeur de philosophie de formation et vous avez notamment publié Guérir la vie par la philosophie. Alors, Jean-François Dortier, certains professeurs de philosophie ou philosophes pourraient trouver vulgaire que vous mettiez de grands penseurs au banc d'essai. Pour qui vous prenez, Jean-François Dortier? Quelle prétention?
Pour un candide de la philosophie, mais qui pose des questions de candide, et parfois les questions des candides sont les plus exigeantes. Mon histoire de la philosophie, c'est celle d'un philosophe défroqué en quelque sorte. Et je commence mon livre en racontant une histoire, celle d'un jeune adolescent, qui est moi et d'autres que j'ai rencontrés, à qui on a mis entre les mains le livre de Descartes, qui est le philosophe par excellence, le discours de la méthode, en leur disant, eh bien ça c'est de la grande philosophie, il faut lire ça. Alors évidemment, on épouse le livre de Descartes, parce que il explique que lui-même s'est détourné des savoirs et a trouvé une méthode extraordinaire pour guider sa raison dans les sciences. Et s'il existe une telle méthode, je trouve que ça vaut le coup. Donc ce que j'ai cherché à faire dans ce livre-là, c'est simplement d'exposer les idées fondamentales des philosophes, mais aussi les mettre au banc d'essai, c'est-à-dire se demander, au fond, est-ce que vraiment Descartes, ça vaut le coup? Parce que c'est un exercice difficile de lire Hegel, Aristote, Platon, Socrate, Foucault, il faut bien le dire. Quelle est la promesse qu'il y a derrière? Est-ce qu'il y a une promesse qui est tenue? Est-ce qu'il s'agit simplement de discours pour briller en société? Ou réellement, est-ce que je serai plus clairvoyant, plus intelligent, plus savant ou plus lucide en lisant les philosophes? Voilà ce que j'entends par mettre les philosophes au banc d'essai. Au fond, c'est les pousser dans leur retranchement.
Laurence de Villers.
Mais alors, Descartes, ça vaut le coup. Alors, je peux pas poursuivre l'émission en laissant cette question
vous
en
suspens. Vous avez écrit
en
que sais-je sur Descartes. Oui,
et je pense que je vis avec lui depuis pas loin de 20 ans. Donc oui, ça vaut le coup. Moi, j'accentuerais même l'expression ça vaut le coup. Je pense qu'il faut quelque chose comme sanctuariser le moment de lecture des textes de philosophie. C'est un moment qui doit pas ressembler aux autres. Ça veut pas dire que la philosophie est dans une tour d'ivoire et qu'elle est enfermée sur elle-même et qu'elle ne voit pas le monde. Mais ça veut dire que ce moment où on est face à 15 lignes, hein, pas forcément tout le livre, 15 lignes, une page de philosophie, c'est un moment qui doit être différent de tous les autres. Il faut sanctuariser la lecture de la philo.
Comment expliquez-vous que la lecture du discours de la méthode de Descartes conduise à une impasse, Jean-François Dortier, et vous, non, ça accompagne votre vie et...
Ah ben moi, ça l'a changé même. Quand
pourquoi je... Expliquez-nous.
J'ai lu ce texte jeune, et j'ai senti que je que j'avais la réponse. Alors, je sais pas à quelle question exactement, mais je l'ai lu et j'ai compris qu'en fait, ça serait plus jamais comme avant. Je savais que c'était pas du français, c'était pas de l'histoire, c'était visiblement pas du tout des maths, puisque je comprenais. Et c'était précisément parce que ça ressemblait à rien d'autre et que ça me donnait des réponses à des questions, encore une fois, je savais pas lesquelles. Mais j'avais en main des pages qui étaient des clés. Donc oui, moi, ça a tout changé.
C'est intéressant ce que dit Laurence quand elle dit « c'était pas des maths, mais peu importe, ça m'intéressait ». Parce que justement, c'est des maths, Descartes. Parce que Descartes, on a extrait ce discours de la méthode qui s'appelle en fait « discours de la méthode pour bien conduire sa raison dans les sciences » n'est qu'une préface à un ouvrage, vous le savez, un ouvrage scientifique dans lequel il y a la géométrie, de l'astronomie, de la physique donc. Et Descartes affirme très clairement « j'ai inventé une méthode pour guider ma raison dans les sciences et cette méthode-là va m'aider à faire une théorie de la nature ». C'est donc bien un projet scientifique qui est derrière. Et ensuite, il expose une partie de sa méthode, une partie seulement. Et c'est là pourquoi je dis que c'est une impasse, une double impasse en fait. La première impasse, c'est que quand vous cherchez à comprendre, vous dites, tiens, c'est une méthode pour devenir, pour inventer une science, ça vaut le coup. Et puis vous cherchez, vous êtes adolescent, vous dites, je décompose, il y a la partie analyse, il y a la partie synthèse. Et puis vous n'y arrivez pas. Si vous cherchez à l'appliquer vous-même, vous ne pouvez pas. Pourquoi vous ne pouvez pas ? Descartes l'a expliqué plus tard, ou même dans le texte lui-même. Il dit même, je n'ai donné qu'une partie de ma méthode. C'est 50 ans plus tard qu'on découvrira qu'en fait, il n'y a pas 4 règles de méthode, il y en a 21. En fait, cette méthode, c'est une méthode mathématique, algébrique, qu'il veut appliquer à la nature entière pour essayer, parce qu'il était dans l'esprit de Galilée, il pensait que la nature est écrite en langage mathématique. Donc, si vous n'avez pas la règle complète, et deuxièmement, quand il l'applique, il se trompe beaucoup. Alors, c'est comme si on donne un ouvrage de méthode d'histoire à un étudiant en disant « mais n'étudie pas l'histoire, étudie simplement la méthode ».
Laurence de Villers.
Oui, c'est certain, hein. je peux répondre que enfin, je peux que confirmer, mais ce qui est irremplaçable dans le discours de la méthode, c'est une philosophie écrite à la première personne, il raconte sa vie, et ça, c'est pas tous les textes qui sont comme ça, il raconte sa vie, et même s'il donne que 2 ou 3 maximes de sa méthode, en tout cas la méthode est quasi introuvable dans le texte, pourquoi pas, il dit à un moment donné dans sa vie, il faut se poser la question comment on sait, et qu'est-ce qu'on sait, et qu'est-ce qu'on sait de certains. Et ça, c'est quelque chose d'inégalé.
Thibaut de Saint-Maurice.
Oui, puis vous avez dit, Laurence de Villers, tout à l'heure, j'y ai trouvé des réponses à des questions que je ne m'étais pas forcément posées, ou ça m'a posé des questions, forcément, il n'y avait pas de réponse. En fait, je crois que c'est ça aussi qui caractérise la lecture d'un grand texte philosophique, c'est qu'on n'y obtient pas forcément la réponse que l'on y attend. En revanche, on y trouve autre chose. Le philosophe Bertrand Russell dit que celui qui veut se frotter à la philosophie doit se préparer à ne pas obtenir de réponse à ses questions. En revanche, il va voir son horizon s'ouvrir. Et il va, Russell dit quelque chose de très joli, il va voir que des questions très familières deviennent en fait très compliquées et des questions très compliquées deviennent en fait très familières.
Jean-François Dortier, je vous cite dans votre livre de Socrate à Foucault, « L'enseignement de la philosophie est devenu pour l'essentiel un exercice de rhétorique, une suite de commentaires de textes que l'on fait passer pour de la réflexion fondamentale. »
Oui, justement, Descartes pour moi c'est significatif, mais on pourrait dire la même chose de Platon, on pourrait dire la même chose d'Aristote et autres. D'abord, une grande partie de la philosophie consiste à enseigner des philosophes anciens. La philosophie se gausse beaucoup d'un esprit critique, d'indépendance d'esprit. En fait, c'est celle qui est la plus, je suis un peu méchant, mais la plus révérencieuse à l'écart des grands maîtres de la pensée, qu'on doit lire en disant c'est des grands penseurs, c'est des grands classiques, chacun y trouve ce qu'il veut, en oubliant de donner les cartes en main. Est-ce que, oui ou non, ça vaut le coup de lire Platon ? Est-ce que ça vaut le coup de lire Aristote ?
Est-ce que la philosophie doit nous aider à mieux penser notre vie ?
Alors, il y a 2 choses dans la philosophie, dans la tradition philosophique. Revenons à l'étymologie. La philosophie, c'est l'ami de la sagesse, disaient les Grecs. C'est le mot une tradition grecque. Alors, qu'est-ce que c'est que la sagesse ? Ça peut s'entendre comme la sagesse, c'est un art de vivre. Et donc le philosophe, c'est un guide vers le bonheur. Et puis la sagesse peut s'entendre aussi comme la connaissance. Et les 2 mots étaient mêlés à l'époque. Et donc le philosophe, là, est un maître de vérité. Moi, je l'ai traité dans ce livre-là, qui aura un 2e tome, que sous l'angle « l'art de la pensée ». Philosophie peut être art de la pensée ou art de vivre. Et aujourd'hui, on a tendance d'ailleurs à gommer un peu l'art de la pensée au profit de l'art de vivre.
Laurence de Villers.
Oui, je reviens sur le côté très révérencieux qu'on aurait en philosophie par rapport aux penseurs. Mais moi, je pense que c'est nécessaire. Je crois que c'est une façon de montrer, quand on enseigne en tout cas, que l'humilité est une qualité intellectuelle. Alors, ça fait pas très drôle hein, de dire ça, mais je pense qu'il y a une attitude philosophique qui commence par se dire « j'ai pas la réponse à tout ». Et l'attitude face aux auteurs, c'est pas de la révérence, c'est pas un respect muet, c'est une école de pauvreté en quelque sorte. C'est se dire, j'ai pas grand chose en main, je vais lire le texte avec cette pauvreté qui est la mienne, avec cette humilité. Voilà, le texte, je vais le lire pour de bon.
Thibaut de Saint-Maurice, est-ce que la philosophie peut nous aider à mieux penser, par exemple, la crise que nous sommes en train de traverser avec cette crise des Gilets jaunes? Est-ce que le grand débat national ne pourrait pas être un lieu, justement, de confrontation des idées philosophiques sur ce qui est une bonne vie, sur le contrat social?
Si, bien sûr, je pense que la philosophie, elle peut aider en deux choses. La première, c'est que c'est, malgré tout, ça reste, comme vous le disiez, un art de penser. Donc, un art aussi de poser des problèmes, d'interroger. Et puis, la philosophie peut permettre, parfois, de conceptualiser. Conceptualiser, ça permet en fait d'identifier une réalité de pensée qu'il va falloir délimiter, définir, trancher et sur laquelle il va falloir se mettre d'accord.
Laurence de Villers.
Je pense que ce qui est intéressant, la place que la philosophie devrait avoir dans un grand débat national, c'est parce qu'elle n'est pas du tout du débat. La philosophie, c'est pas du tout la démocratie de la conviction, donc de l'opinion, c'est voir ce qui peut faire problème dans ses opinions ou dans ses convictions. Donc encore une fois, elle est intéressante parce que c'est pas du débat.
L'esprit d'escalier de Guillemette Audition.
Non mais je vous entends, est-ce que la philosophie aide à vivre? Est-ce que la philosophie doit être assénée comme des vérités en disant « ah là là les grands penseurs » Mais pardon de revenir juste à l'essentiel, est-ce que la philosophie c'est facile à comprendre? Parce
non.
Que, et quand on a affaire à des professeurs qui en revanche font le choix de la vulgariser à outrance, on a l'impression qu'alors c'est simple, tout le monde est philosophe. Hein, au café du coin, on est tous philosophes, alors que non, nous ne le sommes pas. Donc comment réussir à faire comprendre aux gens, oui, que c'est dur à comprendre, mais que c'est justement aussi cette difficulté qui fait la préciosité de la chose, et puis que la philosophie, que je sache au départ, c'est aussi le premier à avoir instauré ça, c'est la dialectique. C'est-à-dire de pouvoir échanger des idées. La question n'est pas de savoir qui a raison ou tort, mais en tous les cas, d'échanger des arguments de manière saine.
Laurence de Villers.
Alors oui, la philosophie, c'est dur et ça doit le rester. C'est-à-dire que la vulgarisation ne doit jamais être une simplification. L'intérêt de la philosophie, c'est précisément qu'elle demande une attitude pour y entrer. Enfin, je disais, c'est faire un vœu de pauvreté. Ben oui, on fait des vœux quand on entre en philosophie, mais même quand on a 18 ans ou même avant et qu'on lit que 5 lignes, on fait le vœu d'accepter de ne pas comprendre parce que c'est dur.
Oui, et c'est beau de dire, c'est dur de réfléchir.
Oui, ouais, exactement.
Il y a des traditions philosophiques qui sont simples, d'autres qui sont difficiles. Je serais pas aussi catégorique. Montaigne, c'est relativement simple. Voltaire, je suis un philosophe, c'est relativement simple. Vous l'avez dit tout à l'heure, Descartes, le discours de la méthode, son introduction, c'est relativement simple.
Derrida, c'est plus compliqué.
Derrida, Kant, Hegel, ça, c'est très technique.
Allez, vous pouvez réagir ce matin sur la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. Alexia Lacour et Laura Laplot m'ont aidé à préparer cette émission avec l'aide de Nicolas Bauve et c'est réalisé par Stéphanie Texier. Paul McCartney interprétait Band on the Run.
Un philosophe a dit un jour, lorsque quelqu'un ou quelque chose meurt, quelqu'un ou quelque chose n'est ailleurs.
Grand bien vous fasse.
Pas boire un verre.
Sur France Inter.
Et ce matin, nous mettons quelques philosophies au banc d'essai avec Jean-François Dortier qui publie de Socrate à Foucault les philosophes au banc d'essai sous le regard des professeurs de philosophie Laurence de Villers et Thibaut de Saint-Maurice. Alors Jean-François Dortier, rappelez-nous ou expliquez-nous votre méthode pour évaluer la pensée philosophique de quelques grands esprits. Trois principes ont guidé l'écriture de ce livre.
Oui, alors pour évaluer, ce serait arrogant de le dire ça, bien sûr. Mais enfin, j'ai essayé d'appliquer des méthodes extrêmement simples qui devraient quand même inspirer quand même beaucoup d'enseignements, à mon avis. La première méthode, c'est l'idée de dégager l'intuition fondatrice qu'il y a chez chaque auteur. C'est vrai qu'il y a des auteurs qui sont techniques, très difficiles à lire, mais il y a toujours, je le crois, une idée relativement simple qui est au fond. Là, on parlait de Descartes, l'idée que la nature est régie par des lois mathématiques et donc qu'une méthode mathématique va nous permettre de comprendre la nature et le monde, ça c'était l'idée de base. Ensuite, le contexte, c'est très très important aussi, parce que tous les penseurs de la philosophie sont des êtres humains. Ils sont liés à une époque, ils sont liés à une histoire, ils sont liés à un contexte. Quand Platon écrit La République et explique qu'il y a des idées pures, ces idées pures, c'est celles d'un aristocrate de la pensée qui veut faire un philosophe roi, qui appartient à la jeunesse dorée athénienne, comme d'ailleurs la plupart des grands philosophes de l'époque, comme était Socrate ou comme l'était Aristote aussi, et qui dégage une philosophie qui est une philosophie aristocratique. C'est important. On ne peut pas comprendre Kant et la théorie entre le noumen et le phénomène si on ne sait pas qu'il y a des débats entre des cartésiens et des newtoniens autour de la physique de l'époque. Et puis le troisième critère, c'est là qu'on peut dire évaluation, ce que j'ai appelé ici le banc d'essai. Vous avez compris, c'est de la provocation, bien sûr. Hein. Mais c'est une méthode qui est pas arrogante, elle est simplement candide, elle consiste à se dire, mais au fond, est-ce que ça vaut le coup? Il y a par exemple au XXe siècle deux courants de la philosophie nouveaux qui sont apparus, ou même trois. Il y en a une qu'on appelle la philosophie analytique, j'en parle pas, c'est trop compliqué. Une lune qui s'appelle la phénoménologie, j'en parle pas, c'est trop compliqué. Une autre qui s'appelle la philosophie des sciences. C'est des nouveautés philosophiques au XXe siècle. Aujourd'hui, on est au XXIe siècle. 120 ans plus tard, on a le droit de se demander, mais qu'est-ce que c'est devenu? Puisque monsieur Husserl, qui est le père de la phénoménologie, dit, j'invente une science nouvelle, une nouvelle façon de penser. On est en droit de se dire, mais au fond, de passer un trash test en quelque sorte, celui de l'histoire, pour dire est-ce qu'on est plus intelligent aujourd'hui qu'on l'était avant.
Votre regard sur la démarche de Jean-François Dortier, Thibaut de Saint-Maurice.
Alors, moi je la trouve passionnante et je le rassure, enfin je vous rassure, c'est ce que nous faisons aussi en cours. Alors, avec les moyens limités qu'on a en termes d'heures et en termes surtout d'objectifs aussi, il s'agit de préparer le bac, etc. Mais un cours de philosophie, c'est pas juste une lecture commentée de texte. En tout cas, moi et beaucoup de collègues, c'est ce que l'on fait aujourd'hui. C'est précisément ce que vous appelez le banc d'essai. C'est-à-dire, aujourd'hui, les élèves, ils sont extrêmement sévères avec les textes difficiles qu'on leur demande à lire. Et c'est les premiers, en fait, à dire est-ce que ça vaut le coup ou pas.
Ah, ils vous le disent.
Mais bien sûr. À quoi ça sert d'aller lire deux pages de dialogue de Platon? À quoi ça sert de lire ce texte d'Aristote où on comprend pas la moitié des mots? Et les textes de Descartes, dont on n'a pas dit tout à l'heure, mais au passage que les phrases font parfois 10 ou 15 lignes en français, moyennement traduit
du
latin.
Moi, j'ai des étudiants qui m'ont demandé s'il y avait une version moderne de Descartes.
Donc, les élèves sont les premiers à se poser cette question. Et moi, je trouve ça très frais, c'est passionnant, il faut faire ça. En revanche, se pose la question ensuite de quels sont les critères d'évaluation. Et je suis d'accord, il y a cette question de savoir si la promesse est tenue, etc. Et très souvent, en fait, ce qui fonctionne, c'est quand on ouvre, alors les élèves ou d'autres, à la dimension qui est que avec cet argument-là, ou avec ce concept-là, chez tel auteur, etc., eh bien, ça va leur permettre tout simplement de ne plus subir des opinions ou des avis, mais de construire leur propre argument à eux. Voilà. Et en fait, il y a un côté très... alors, c'est un autre concept, mais empowerment, c'est-à-dire qu'on leur donne les moyens, avec ces arguments-là, qui parfois ont 1500 ou 2000 ans, de construire leurs propres arguments à eux.
Laurence de Villers.
Je suis absolument d'accord. Le crash test, c'est pas les philosophes, c'est les élèves, ou peu importe.
Le lecteur.
C'est le lecteur. C'est-à-dire que en lisant les philosophes, ce qui compte, c'est pas tant de les comprendre, évidemment, au bout d'un moment, il faut quand même les comprendre, mais de voir que moi aussi, je vais être capable de conceptualiser, de faire cette chose qui est quand même le propre de la philosophie, c'est de fabriquer des concepts, pas des débats, des idées, des opinions, mais des concepts. Et le crash test, il est là. Est-ce que j'en serai capable ?
Guillaume Todicino.
Et est-ce que ça ouvre à cette chose magnifique qui s'appelle l'esprit critique ?
Bien sûr.
Oui, il y a trois traditions dans l'histoire de la philosophie. Certains disent que la philosophie, ça ouvre à un savoir ultime, un savoir supérieur qui ne serait pas accessible au commun des mortels. C'est le cas de Platon, c'est le cas de Hegel.
Donc les gens qui disent, des philosophes.
Il y a des gens qui disent la philosophie, ce n'est pas un savoir ultime, c'est une méthode pour bien penser, ce que dit notamment Descartes, mais d'autres l'ont fait, les empiristes, les pragmatiques. Et puis d'autres disent, c'est l'esprit critique. Ça ne sert, on n'apprend rien, on n'a même pas une méthode sûre et pour bien gouverner sa pensée, mais on a un esprit critique. Ça aussi, ça c'est cette perversion, cet esprit critique. J'en dirai quelques mots tout à l'heure, si vous voulez.
Maintenant, alors.
Alors, l'esprit critique, c'est bien quand il y a des dogmes de partout. Parce qu'il faut les critiquer. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, nous sommes dans une période où l'esprit critique est, d'abord, il n'appartient pas à la philosophie. En science, il y a beaucoup d'esprit critique. En politique, il y a de l'esprit critique. On n'arrête pas de s'autocritiquer. Il y a même une forme aujourd'hui excessive de l'hypercriticisme. C'est la théorie du complot, qui consiste à remettre en cause tout ce qui se dit. Donc, aujourd'hui, avoir un esprit critique, moi, je trouve pas que c'est quelque chose de si original que ça. Et refonder une pensée qui est beaucoup plus exigeant que de simplement critiquer les idées des autres, eh bien, ça, c'est une partie de la philosophie qui a été abandonnée.
Oui, alors je suis d'accord, mais en même temps, l'esprit critique que vous critiquer. C'est vrai pour, encore une fois, une lecture très avertie. Il y a, malgré tout, toujours un problème qui recommence à chaque génération. C'est le problème de l'opinion. C'est-à-dire, ce qu'on me met dans la tête et qui ne vient pas de moi, ce qui a grandi en moi sans mon consentement. L'opinion, le préjugé, le fait que, je sais pas, prenons un exemple simple, que les hommes et les femmes, c'est différent. Donc, si c'est différent, pourquoi est-ce qu'ils auraient les mêmes droits ? Alors, voilà, au bout d'un certain temps, ça nous paraît évident. Mais, en fait, à chaque génération, il faut recommencer ce travail-là. Et je suis d'accord, l'hypercriticisme, c'est une maladie. Mais on commence dans l'ignorance. Et donc, il faut d'abord détruire cette ignorance-là.
Ah, mes amis, venez, je vais vous montrer mon travail. La statue d'Athéna, le Parthénon, je n'en suis pas mécontent, mais enfin... Ah, tiens, voilà Socrate.
Salut. Salut.
Eh bien, mon garçon, dis-moi, que sais-tu ? Rien, mais tu sais tout. Si tu sais que tu ne sais rien, crois-moi, tu détiens là la base de toute connaissance.
Extrait du dessin animé, il était une fois l'homme. Alors Jean-François Dortier, commençons ce banc d'essai des philosophes avec Socrate. J'ai dû faire un choix. Je commence quand même avec Socrate. C'est évident, non, de commencer avec Socrate, Jean-François Dortier.
Il est présenté comme le père de la philosophie. C'est pas tout à fait vrai parce qu'il y a des pré-socratiques. Mais en fait, moi j'ai commencé également le livre par ça. Puis c'est vrai que j'ai voulu un peu le détrôner un peu. Dans ce livre, j'ai des chouchous et puis j'ai des gens qui sont un peu des têtes de turc. Et c'est vrai que Socrate, j'en ai fait un peu une tête de turc. Pourquoi ? Parce qu'il est présenté sous une forme un peu trop canonisée, un peu trop sainte. D'ailleurs, il est comparable à Jésus-Christ parce que c'est un père fondateur de la philosophie, et comme Jésus-Christ, il a été sacrifié sur l'autel des opinions, justement, dit-on, parce que c'était un libre penseur, on le présente comme celui qui vient titiller les idées de l'opinion. Et il serait même condamné à mort pour cela.
Il y a des enfants qui nous écoutent en cette période de vacances. Comment présenter Socrate à un enfant de 10-12 ans ?
Non, justement, je ne veux pas le présenter forcément à une enfant de 10-12 ans, je vais le présenter à des lycéens aussi pour présenter qui était ce personnage. Qui sont les gens dont on ne connaît pas les écrits. D'ailleurs, il faut signaler au passage que lui refusait l'écriture, il était très obscurantiste, il était contre les physiciens, contre les savants, il était très croyant, il croyait à l'immortalité de l'âme, alors qu'il dit, on dit toujours, je ne crois en rien. Mais si, il croyait, il a bu la ciguë, il pensait réellement, lui, être immortel, que son âme était immortelle. C'était l'ami de tous les puissants, de tous les tyrans.
Ah oui, c'est vraiment votre terre de Turc,
mais
bien là.
Sûr. Non, mais parce qu'il faut dire ces choses-là aussi. Parce que, par exemple, on assimile souvent la philosophie avec la démocratie, puisqu'ils sont nés dans le même terreau qu'est le terreau grec. Socrate est un antidémocrate, comme Platon est un antidémocrate, comme Aristote ne sont pas des démocrates. Ils n'ont pas du tout... Pourquoi ne pas dire ces choses-là ? Pourquoi ne pas dire qu'il était l'ami des tyrans ? Alcibiade, dont il était amoureux, faisait partie des Spartiates, qui ont été des bourreaux du peuple athénien. Mais l'idée surtout qui était le plus importante pour moi, c'est sa fameuse démarche, la démarche dont vous avez tout à l'heure, qui est celle du dialogue, du questionnement sans fin.
De la maïeutique.
De la maïeutique. Alors la maïeutique, elle est utilisée une seule fois. dans les travaux.
Expliquez ce que c'est.
Alors, la maïeutique, c'est une démarche qui, par des questionnements progressifs, arrive à faire accoucher d'une vérité qui est en soi, qu'on ne connaît pas. L'exemple typique, c'est l'exemple du Ménon, où Socrate prend un jeune esclave et lui demande de faire un exercice mathématique, c'est de construire un carré qui est le double d'un autre carré. Alors le jeune esclave dit, je vais doubler les côtés, et puis Socrate va lui montrer de façon successive qu'en fait, c'est pas les bonnes solutions. Il l'interroge, et à la fin, le jeune esclave est censé avoir trouvé la solution, c'est-à-dire il faut partir de la diagonale pour pouvoir faire le double du carré. Quand on lit ça, on se dit, oui, c'est très bien, j'ai découvert une vérité en moi grâce à des questionnements successifs. En réalité, c'est pas du tout comme ça, c'est une supercherie. Vous ne trouvez pas par cette méthode maïeutique, la méthode, c'est Pythagore qui l'a trouvée grâce au théorème de Pythagore. Donc, Socrate connaissait la vérité avant d'interviewer le jeune esclave. Il le mène par une conduite, par une méthode qui est pseudo-dialectique vers la vérité que lui connaît, mais qu'il n'a pas appris par la maïeutique, et il débouche sur une vérité qui est apparemment un accouchement de la vérité, et qui n'est pas du tout celle qui permet de découvrir la façon de doubler la surface d'un carré.
Laurence Devilliers.
Alors, je crois qu'il y a deux choses. Est-ce que la vie du philosophe est à la hauteur du philosophe? Donc, je pense qu'à 90% non, parce que on est rarement à la hauteur de notre philosophie. Et donc, vous avez raison. Socrate était peut-être pas ce saint que la philosophie veut montrer, mais d'une certaine façon, c'est comme ça. Je crois que on n'est pas à la hauteur de notre philosophie. Et puis la deuxième chose, c'est pas tant est-ce que ça marche. En fait, quand vous dites est-ce que ça vaut le coup, c'est plutôt est-ce que ça marche. Et l'idée, c'est pas tant est-ce que ça marche et on examine et on évalue les résultats. Qu'est-ce que veut dire Socrate? Il veut dire qu'en fait, qui que nous soyons, érudits, esclaves, libres, savants ou pas, la vérité ou la connaissance, elle ne viendra pas d'une observation des faits ou des choses qu'on voit. Elle viendra dans ce mouvement qui est je rentre en moi-même, je prends le temps de rentrer en moi-même et de chercher. Et c'est ça qu'on peut conserver. C'est pas le résultat, c'est le moteur.
Arbitrage de Thibaut de Saint-Maurice.
Non, arbitrage, je sais pas. Non, je crois que vous avez raison de déconstruire la figure de Socrate. Et en même temps, c'est celui qui, à travers ces longues chaînes de questions, qui parfois même sont agaçantes à lire, parce que prenez un dialogue qui s'appelle Hippias, par exemple, ça commence par « qu'est-ce que la beauté ?» On pense qu'on va avoir la réponse à la fin, on n'aura pas la réponse à la fin. Mais pour autant, cette longue chaîne de questions et de discussions, et même de mauvaise foi de Socrate, en fait, Socrate, c'est un clasheur. C'est un clasheur systématique de ceux qui, entre guillemets, pardon, hein, mais cela pétait un peu dans la cité athénienne, qui croyaient savoir. Et moi, ce que j'aime, c'est ça. C'est que, oui, il est de mauvaise foi, il est parfois utilisé des arguments pourris, mais pour autant, ce qui est intéressant, c'est cette attitude qui consiste à dire, vous qui croyez savoir, eh bien, peut-être, vous devriez réviser un petit peu vos prétentions.
Guillemette Odissino.
Oui, et puis en plus, il emploie des phrases très courtes. Enfin, c'est lui qui trouve ce modèle de questionner de manière courte, efficace. Enfin, il invente les punchlines. Je pense que c'est pour ça qu'il restera à la mode très très longtemps.
Alors, Jean-François Dortier, vous mettez au banc d'essai dans votre livre l'un de mes auteurs préférés, Montaigne. Rappelez-nous, quelle est l'entreprise des essais du fameux Bordelais?
Alors, Montaigne, son projet, il est très humaniste, il fait partie du courant humaniste, c'est d'essayer de comprendre ce qu'est l'être humain, l'humaine condition. Et il se met en scène, effectivement, avant même Descartes, donc il parle « je ».
Sans narcissisme.
Sans narcissisme, avec d'autodérision, avec de l'autocritique, et il cherche à comprendre l'humaine condition. Et il le fait, pour moi, avec beaucoup d'humanité aussi, parce qu'il ne construit pas un modèle, justement, théorique de l'être humain. Il cherche simplement à poser des questions toutes simples sur ses passions, sur sa difficulté, il dit quel inconstant que l'homme, il se rend compte que lui-même, il se donne une discipline de vie, et puis il n'arrive pas à la suivre, qu'il s'intéresse plus à ses livres qu'à ses 6 filles, il a eu 6 enfants, il connaissait même pas tous leurs noms, il s'intéresse à l'esclavage, donc là c'est un humaniste au sens très fort du terme, pour moi c'est un philosophe, lui, qui n'a pas une démarche systématique, absolument pas, c'est des essais, comme son nom l'indique d'ailleurs, c'est un des rares philosophes qui se trompe, qui dit « je me suis trompé ».
Pourquoi Montaigne peut nous aider à mieux penser notre vie quotidienne, Laurence Villers?
Parce qu'il en parle. Parce qu'en fait, Montaigne montre dans la lignée de votre tête de Turc, de Socrate, à qui on disait « mais vous allez parler de la boue, des poils, de la barbe, des cheveux ». Et Socrate disait « bah oui, je vais le faire ». Donc Montaigne, dans la lignée de ce Socrate-là, va faire rentrer la vie quotidienne en philosophie. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il le dit, il y a un passage magnifique des essais, où il dit « même ce grand général, à la veille de sa bataille, bah, il vit sa vie, c'est-à-dire il vit la seule vie qu'on ait, c'est la vie quotidienne. C'est pas qu'il fasse rentrer la vie quotidienne dans la philosophie, c'est qu'il n'y a pas de distinction de vie chez lui. Il n'y a pas la vie du savant et la vie quotidienne, il n'y a qu'une seule vie, c'est la vie de tous les jours, c'est celle qu'on vit.
Thibaut de Saint-Maurice.
Ouais, Montaigne, c'est fascinant. Et d'ailleurs, pour le coup, souvent, il n'est pas considéré dans cette lignée classique des philosophes. Donc c'est une super idée de l'avoir intégré. Montaigne, ce qui est fascinant, c'est que moi, parfois, même, je ne dis pas que c'est un philosophe, c'est quelqu'un qui vit en philosophie, dans un pays qui s'appellerait la philosophie, et c'est quelqu'un qui vit, c'est un habitant de la philosophie. Alors, il y a plein d'épisodes célèbres, la chute de cheval, le s'allonger sur son lit et croire qu'on est mort, etc., etc. C'est des exercices pratiques, etc. C'est cette vie examinée. Voilà, ça c'est fascinant.
Éric Libieux le fait souvent, il s'allonge dans son lit et voilà, il s'imagine mort. Ah, vous le faites souvent ça, Éric Libieux. Jean-François Dortier.
Oui, j'aime bien cette formule que je retrouve, je suis moi-même la matière de mon livre. Mmh. Mais c'est pas du tout du narcissisme, au contraire.
Non.
Et il dit, au contraire, c'est pour, parce que chaque être humain représente l'humaine condition dans sa totalité. Et en m'examinant moi-même, j'essaye de partager avec les autres, surtout mes failles, mes défaillances, mes faiblesses.
Donc, Kant avancerait que dans un monde véritablement moral, il n'y a absolument pas de place pour le mensonge. Et un mensonge, si petit soit-il, détruirait son sacro-saint impératif catégorique. Donc, selon Kant, si un assassin entre dans votre maison, dans le but de tuer l'homme qui se cache à l'étage et qu'il demande où il se trouve, vous seriez obligé de lui dire. Dans son monde parfait, vous n'auriez pas le droit de mentir.
Oh.
Ok, dans ce cas, vous diriez que si les nazis venaient chez vous alors que vous cachez Anne Frank et sa famille, et qu'il demandait s'il y a quelqu'un dans le grenier, vous diriez, y'a, les frangues, ils ont là-haut. Ça m'étonnerait. Parce que, il y a une différence entre un monde théorique basé sur un verbiage de merde philosophique et la réalité de la vie.
À partir de la lecture d'Emmanuel Kant, une belle question à poser dans L'homme irrationnel de Woody Allen. Tiens, comment vous répondriez, Laurence de Villers?
Alors, ces pages de Kant sur quelqu'un viendrait se réfugier chez moi, etc. Moi, je trouve que c'est un sommet en philosophie. Alors, j'ai peut-être un côté groupie, moi, fan par rapport à ce que dit Jean-François, c'est que ces pages-là, même si on a pu les annonner, les asséner, je les relis et je me dis, quand même, bah oui, il n'y a pas d'équivalence. Et alors, Kant, ce qui est fascinant, alors ce qui a été l'objet de la critique, c'est que il est jusqu'au boutiste. C'est-à-dire que pour lui, la morale, c'est le domaine où il ne peut pas y avoir d'exception. Si on commence à chercher des exceptions à la morale, on n'est plus dans la morale. Il y a ça, et l'autre enseignement de Kant, qui est important par rapport à l'extrait du film, c'est que la morale, ce n'est pas le lieu des sentiments. On ne fait pas le bien par sentiment ou par sympathie. On fait le bien parce qu'il faut faire le bien. Et ça, c'est un sommet.
Thibaut de Saint-Maurice, vous la posez cette question à vos élèves?
Oui, d'autant que, pardon pour les amateurs, mais dans l'épisode 6 de la saison 7 de Game of Thrones, eh bien, Jon Snow, il y a une rencontre très très importante entre les deux parties qui s'opposent depuis le début de la série, et Jon Snow, mais vraiment, c'est quasiment du mot à mot de Kant. Alors oui, cette question, je la pose aux étudiants. En fait, c'est formidable parce qu'elle est évidemment dérangeante. Effectivement, Kant dit, vous le cachez chez vous-même, vous cachez votre ami poursuivi par des brigands, eh ben vous devez dire que vous le cachez. Mais en même temps, ce qui est formidable, c'est que ça permet tout simplement de poser le problème, effectivement, de l'écart entre ce que c'est qu'un principe moral, une vie morale, et ce que c'est que la vie. Et Kant sait bien que dans quasiment tous les cas, on mentira. Mais il nous dit, c'est pas juste, vous n'avez pas le droit, c'est pas ce que vous auriez dû faire. Mais c'est pas grave, il nous propose en fait l'outil pour penser cet écart.
Jean-François Dortier, vous avez consacré un chapitre à Kant dans votre bande d'essais des philosophes.
Oui, le point de départ de la question de Kant, de son grand livre, qui est un des monuments de la philosophie occidentale, tout à fait illisible, d'ailleurs que personne n'a lu vraiment,
Critique
qui s'appelle
de
la Critique
pure.
De la raison pure, il part d'une question toute simple, qu'on est en droit de se poser quand on, justement, avant d'entamer des études philosophiques, il dit comment se fait-il que, dans le domaine de la philosophie, il y a autant de philosophie que de philosophes? Je le dis avec mes mots à moi, hein. C'est-à-dire que chacun se construit son propre système, alors que ce sont des gens qui prétendent être rationnels et à avancer dans la connaissance. Des physiciens se mettent d'accord entre eux sur des faits, et on peut déterminer ce qui est vrai et ce qui est faux. On peut, chez les mathématiciens aussi, qui n'étudient même pas la réalité, mais des purs concepts et des purs raisonnements, aussi avoir des règles absolues. Et comment se fait-il que le royaume de la philosophie, c'est le royaume derrière l'apparence de l'esprit critique, derrière l'apparence de la rigueur et derrière l'apparence du ciselage des concepts, on est autant de philosophie que de philosophes. Et donc ça, c'est un vrai problème premier qui est fondamental.
Thibaut de Saint-Maurice.
Oui, en même temps, il ne faut pas non plus sacrifier à cette image des sciences qui serait une sorte de grand régime du consensus. Aujourd'hui, en biologie, en physique théorique, il y a différentes théories, différentes hypothèses, différentes écoles, et les physiciens ne sont parfois pas d'accord entre eux. Les mathématiciens aussi sont parfois pas d'accord entre eux.
Bien sûr, mais au contraire. Mais justement, c'est un argument qu'on peut retourner. Le propre de la science n'est pas de dire une vérité. C'est
absolument.
Pas d'être d'accord. Karl Popper, qui est un grand philosophe, dit,
elle a pas le monopole.
La vérité, c'est toujours une erreur en sursis. Le propre que des philosophes, c'est qu'ils ne se trompent jamais. Alors qu'en science, on se trompe toujours. Et le propre de la science, justement, c'est d'affirmer des théories qui seront contestées par la suite.
Non,
trouvez-moi un philosophe qui soit trompé.
Ils le disent. Enfin, y a même un philosophe qui est passé, qui a été sanctifié, pour le coup, là c'est vrai, c'est Augustin, philosophe, qui dit à la fin de sa vie, il appelle son livre Rétractationnaire.
Saint Augustin,
à la fin de sa vie, il écrit un livre qui s'appelle Rétractationnaire, où il dit tout ce qu'il a dit de faux. Je pense que l'erreur serait de faire de la science le monopole du vrai et de juger la philosophie de l'extérieur par rapport à la science.
Guillaume Todicino.
Non mais pardon, mais moi je reviens juste au dilemme absolu de Kant. Là, est-ce qu'il faut dénoncer son... pardon, mais il faut dénoncer son voisin. Parce que vous avez l'air de penser que la morale, effectivement, que dans son esprit, le mensonge est la chose absolue. D'accord ?
C'est le mal.
D'accord, qui l'a décidé ? Lui ?
Non, alors c'est pas exactement, pardon, c'est pas exactement le mensonge et le mal absolu. C'est de dire que, ce que disait Laurence de Villers tout à l'heure, l'action morale, le devoir, n'admet pas d'exception. Parce que la question est plus dans l'esprit des textes où ça se pose dans le 18e, c'est de dire, est-ce qu'on peut faire une exception au devoir de dire la vérité ? Est-ce qu'on peut penser des cas dans lesquels un mensonge aurait de bonnes intentions, de bons effets ? Le problème du noble mensonge. Et c'est là-dessus où Kant dit, non, on ne peut pas faire d'exception, et donc même dans le cas où votre ami est réfugié chez vous, etc., vous devez le dénoncer.
Jean-François Dortier, dans votre livre, vous avez mis au banc d'essai quelques philosophes français du XXe siècle, célèbres à l'étranger, comme Jacques Derrida.
Vous l'entendiez à l'instant dans la revue de presse européenne, les hommages à Jacques Derrida se multiplient en France et à l'étranger. Très long article dans le New York Times d'hier, dans le Washington Post également. Jacques Derrida a été lu, apprécié, commenté aux États-Unis où il enseignait depuis longtemps une partie de l'année. Les journaux américains insistent sur la fécondité de ses travaux dans des domaines aussi différents que les études gays et lesbiennes, les philosophies tiers-mondistes, l'architecture et le design, jusqu'au sourire d'un Woody Allen intitulant l'un de ses films « Deconstructing Harry », clin d'œil à la déconstruction chez Jacques Derrida.
Nicolas Demorand, dans les matins de France Culture en 2004, Jacques Derrida, c'était donc le pape de la déconstruction. Jean-François Dortier, vous pouvez nous expliquer ce qu'est la déconstruction pour pouvoir briller ce week-end dans les dîners ?
Alors, c'est une idée relativement simple, hein, qui porte sur le fait que toute la tradition philosophique et la tradition de pensée en général se construit autour de systèmes de pensée fonctionnant sur des oppositions. Le corps et l'esprit, les hommes et les femmes, les hommes et les animaux. Et lui, l'idée de la déconstruction, c'est de remettre en cause ces couples bipolaires qui, en quelque sorte, sont des catégories de pensée extrêmement inscrites au cœur des stéréotypes, si on veut, et souvent, dualistes, et qu'il remet en cause. Voilà l'idée très très simple.
Et qu'est-ce qui reste de Derrida au tamis de votre bande d'essai ?
Alors, justement, premièrement, on voit bien que cette méthode de déconstruction, elle va servir, elle va s'emparer par des gens qui s'opposent, par exemple, à la domination de la raison contre la passion. Ceux qui s'opposent parmi les courants qui aux États-Unis qui des gender studies, c'est-à-dire des gens qui remettent en cause l'opposition femme-homme, c'est très important. Pour ceux qui remettent en cause l'opposition entre l'humain et l'animal, c'est très important. C'est une méthode très perspicace. Simplement, ce qui est curieux, c'est que Derrida lui-même est devenu une sorte de gourou de la pensée philosophique, dont les textes sont extrêmement obscurs eux-mêmes. Par exemple, il y a un livre sur l'homme et l'animal qui s'appelle « L'animal donc que je suis ». Qu'est-ce que ça veut dire, l'animal donc que je suis? Vous pouvez déjà interpréter dans tous les sens. Est-ce que je suis l'animal, c'est-à-dire que je suis un animal, ou je viens après l'animal? Et tout le texte est extrêmement confus. Il n'a jamais pris la peine d'ouvrir un livre de biologie pour essayer de définir ce qu'est le monde animal.
Laurence de Villers.
Derrida, sont les questions de domination inscrites dans un discours de la méthode. C'est parce que ces couples, ce sont des couples de dominants et domination. Donc c'est en fait du Descartes, mais avec l'inquiétude de la domination, du rapport de domination.
Moi, je trouve que tout ce qui est justement de ce domaine, du dominé, du dominant et de l'identité en fait, qui est-on, est vraiment passionnant chez lui. Et souvent, c'est assez simple quand on enlève pas mal de jargon, et surtout c'est quand même un philosophe, c'est triste de savoir d'où vient, c'est celui qui a parlé de l'exil intérieur, c'est-à-dire il fait la différence entre le vide éventuel, enfin la non-identité intérieure et l'identité que les autres vous portent ou vous collent d'ailleurs, et ça vient quand même de son enfance en Algérie. C'est un juif algérien. Le décret Crémieux lui donne la nationalité française. Ce petit juif est français. Et tout d'un coup, en 1940, Vichy abroge ce décret Crémieux. Et soudainement, Derrida n'a plus, en tout cas, on lui retire cette identité. Et de là va quand même naître aussi cette quête de qui est-on ? Qui est-on ?
Thibaut de Saint-Maurice.
Oui, je suis d'accord avec Jean-François Ortier. Il y a quelque chose qui est un tout petit peu gênant aujourd'hui avec Derrida, c'est le côté gourou. On fait le rapport entre les gens qui parlent de Derrida et les gens qui l'ont lu, c'est un rapport qui est incroyable.
Pour terminer, quel est le philosophe qui a le plus influencé votre manière de voir le monde, de le penser, Thibaut de Saint-Maurice?
Alors moi, c'est juste avant ou juste après Derrida, enfin juste avant peut-être, c'est bizarrement, c'est un philosophe contemporain, c'est Michel Foucault, dont je ne cesse pas d'ailleurs de continuer de lire, de découvrir et d'apprendre. Et précisément parce que je ne suis, entre guillemets, pas d'accord sur tout, ce qui ne veut pas dire que je suis à son niveau, hein, mais ça reste un aiguillon qui continue de gratter un peu dans mon esprit.
Laurence de Villers.
Bon, moi je l'ai déjà dit, hein, c'est Descartes pour toujours, mais je dois faire amende honorable, il y a une philosophe que j'ai assez méprisée, enfin je trouvais que c'était pas à la hauteur, Hannah Arendt, peut-être parce que c'était une femme, donc je la prenais moins au sérieux, c'était atroce, et j'ai relu, et je trouve ça très fort, donc je fais amende honorable.
Guillemette Odissino.
Ah, je suis d'accord, Anna Arendt, moi aussi. Je l'ai lu beaucoup plus tard. Et puis, il faut être honnête, à 18 ans, on peut conseiller le Gai Savoir de Nietzsche. Ça marche, Ça marche, le Gai Savoir.
Enfin, Jean-François Dortier.
C'est vrai. C'est un paradoxe, parce que justement, j'ai voulu aller à l'encontre de l'idée et de la philosophie, ce serait des filiations et des traditions. Mais bon, bref, jouons le jeu. Pour moi, ce serait Edgar Morin. Edgar Morin, parce que c'est un philosophe qui est ouvert au monde, qui a étudié, quand il a étudié la nature, eh bien, il a étudié la physique, il a fait de la sociologie. Il est un peu touche-à-toutologue, c'est un humaniste, c'est un penseur à l'heure des spécialistes, et puis il a cette autodérision, on s'est beaucoup engueulé, on s'est beaucoup réconcilié, c'est devenu mon ami, j'en suis fier, et je trouve qu'il a justement, il fait partie de ces rares philosophes qui ont un sens de l'humain qu'on trouve peu dans les textes souvent très ardus de la tradition philosophique.
Edgar Morin, toujours aussi vif à 97 ans. Merci Thibaut de Saint-Maurice et Laurence de Villers. Merci Jean-François Dortier. On peut lire avec profit de Socrate à Foucault, les philosophes au banc d'essai, et c'est publié aux éditions Sciences Humaines. Merci beaucoup à tous d'être venus. Tout de suite, l'éternel retour d'Éric Libiot de l'Express. Enfin, tout de suite, après le disque.
Je rêve, pense-moi pour voir. J'avoue, j'ai du mal à le croire. C'est moi qui chantais ce soir. Est-ce que c'est moi qui, vraiment moi qui chantais? Suis-je plus laide ou plus belle que sur la photo de mon disque orange? Suis-je seulement celle dont j'ai l'air? Souvent je change de cœur. Oh, 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 t'es le roi. mienne. Oh mon bon petit soldat, comment tu me préfères? Mon héroïne ou mon blessé de guerre, cette vie que j'habite. Parfois me dépasse, parfois est trop petit, peur que ma chance me quitte. Je cours partout, je m'ennuie vite.
Clara Luciani interprétée nue. Et il n'est pas nu, heureusement pour nous, Éric Liguot.
Heureusement pour moi aussi.
De l'Express. Quoi de neuf dans l'éternel retour?
Eh bien écoutez, Ali, vous l'avez noté, nous sommes aujourd'hui le 1er mars, hier nous étions le 28 février. Cette année 2019 marque donc l'éternel retour de la disparition du 29 février. Et l'idée d'une disparition qui revient dit bien l'aspect un peu étrange de cette journée qui ne réapparaît donc que tous les 4 ans. Ce 29 février est là pour coller l'année civile à l'année solaire qui, elle, compte 365 jours, 2422. Donc en gros, il faut rattraper un quart de jour tous les 4 ans, soit l'année dite bissextile, qui est une année divisible par 4, mais pas par 100, sauf si elle est divisible par 400. Parenthèse d'ailleurs, cette année 2019 n'est pas bissextile, mais l'année prochaine 2020 l'est. Donc pour éviter aux enfants d'être traumatisés pour être nés un 29 février, j'incite les futurs parents à faire abstinence totale entre le 20 mai et le début juin de cette année, fin de la parenthèse. Donc tous les ans, hors année bissextile, il y a un quart de jour qui flotte dans l'air, un quart de jour qui n'existe pas, mais qui existe quand même et dont on ne tient pas compte. Alors un quart de jour, c'est quand même 6 heures, soit 360 minutes, soit une minute flottante par jour pendant l'année, sauf 5 jours en temps normal. Déjà, ça devient un petit peu compliqué à calculer. Alors d'un point de vue métaphysique, c'est assez fascinant ce quart de jour immatériel. On dirait même une nouvelle de Borges, l'autre par exemple, issu du recueil Le Livre de Sable. Dans cette nouvelle, Borges rencontre son double, alors âgé d'une dizaine d'années de moins que lui. Si ça se trouve, ce double a vécu sa vie sans année bissextile pour être plus jeune. Car une dizaine d'années, c'est 2 ou 3 années bissextiles. Alors 2 si la première année bissextile est la deuxième, la troisième ou la quatrième de ce laps de temps. Et 3 si la première est la première. Bon, cela dit, puisque le concept d'une dizaine d'années est relativement peu précis, tout ce que je viens de dire l'est aussi.
Je vous ai perdu, Éric Liguot.
Et on voit bien que cette année bissextile, rajoutée à la va comme je te pousse par l'astronome grec Sosigène d'Alexandrie à la demande de Jules César en 45 avant Jésus-Christ, peut provoquer des comportements irrationnels, des raisonnements mathématiques douteux et des chroniques sans intérêt. Mais il y a peut-être une solution. Supprimer l'année bissextile, le mois de février aurait 28 jours tous les ans et chacun choisirait ainsi ses 6 heures de libre. Ça s'appellerait d'ailleurs prendre son quart. 6 heures tous les ans qui n'existeraient que pour soi et pendant lesquelles on pourrait faire ce qu'on veut et qui n'auraient aucune conséquence ni sur la marche du monde ni sur les autres. 6 heures de totale liberté que personne ne pourrait vous reprocher. Une liberté absolue parce que ce serait bien ça, une liberté qui ne s'arrêterait pas là où celle des autres commence, une nouvelle conception philosophique de la liberté finalement. Alors je conçois que le truc est un petit peu compliqué à mettre en place, mais comme je suis un gars sympa, je m'y suis collé, mais uniquement à moitié. Sur les 6 minutes auxquelles j'ai droit donc chaque année, j'en ai utilisé 3 pour cette chronique totalement en roue libre. Mais l'avantage, c'est que le nombre d'auditeurs qui ont déjà éteint leur poste de radio ne seront pas comptabilisés dans les prochaines vagues d'audience. Et c'est ainsi que je viens de démontrer, par les faits, l'inanité totale de l'année bistextile. Rien ne se crée, tout se transforme et revient toujours.
Éric Silvio de l'Express, est-ce qu'on lancerait pas une pétition pour ces 6 heures annuelles?
Mais allez, moi, je suis tout à fait d'accord. J'aimerais bien comme ça qu'il y ait 6 heures et que chacun pourrait habiter comme il veut.
Mais sans conséquence aucune?
Bah oui, c'est là
mais
où
tu te rends compte.
C'est là où ça devient compliqué.
Merci Éric Libio, merci à la documentation de Radio France, aux standardistes de France Inter et à l'excellente programmation de Muriel Pérez. Merci à notre stagiaire cette semaine, Émilie Mostefaille. À suivre la bande originale de Leïla Kaddour et Daniel Morin. Merci à la technique, hein, merci à Ludovic Asselot. Lundi, vous retrouverez Marie Sauvion. Pour ma part, je vous retrouve mardi prochain.